Je passe à la présentation de Marc Carney, qui nous fait un grand, grand plaisir et un grand honneur de nous rejoindre pour cette réunion d'aujourd'hui. Marc Carney a une expérience et une compétence multiple. Il a été à l'école, si je puis dire, et notamment à Oxford, à l'université d'Oxford, où il a eu un doctorat. Il a été, après avoir passé un temps assez long dans le secteur privé, avoir une très très bonne connaissance du secteur privé, il est entré comme au Trésor canadien, à des postes très importants. Il a été gouverneur du Canada, de la Banque centrale du Canada, de 2008 à 2013, et ce qui est très remarquable, gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020, alors même qu'il n'était pas, lorsqu'il a été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, il n'était pas citoyen britannique. Et donc c'est une première. Il n'y avait jamais eu de citoyen non britannique, de non ressortissant de Sa Majesté via le canal anglais pour prendre une position aussi importante. L'anecdote raconte que le Premier ministre d'Angleterre, expliquant à la reine d'Angleterre qu'il avait l'intention de nommer un citoyen canadien, ancien gouverneur de la Banque du Canada, comme gouverneur de la Banque d'Angleterre, à l'époque, je crois, Marc était citoyen canadien et aussi citoyen irlandais, à vrai dire, mais pas citoyen britannique. La Banque d'Angleterre aurait répondu avec beaucoup de grâce et de bienveillance, Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas que si la reine d'Angleterre demande à la reine du Canada, si celle-ci voit un inconvénient à ce que Marc Carney devienne gouverneur de la Banque d'Angleterre, la réponse sera très positive et avec enthousiasme. Et donc c'est comme cela, mon cher, que tu es devenu, sans être citoyen du Royaume-Uni, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Tu es maintenant, à vrai dire, citoyen du Royaume-Uni, donc tu es à la fois citoyen canadien, citoyen anglais et citoyen irlandais. Après avoir quitté la Banque d'Angleterre et avoir prononcé en tant que gouverneur de la Banque d'Angleterre des discours très importants et en particulier sur les questions d'environnement, un discours qui a fait date sur le drame, la catastrophe des horizons pour expliquer que nous devions absolument prendre en compte des horizons beaucoup plus éloignés lorsque nous voulions aborder la question de la gouvernance mondiale et notamment de la gouvernance mondiale environnementale. Donc c'est après avoir quitté ses fonctions à la Banque d'Angleterre et avoir lancé la Banque d'Angleterre, avec beaucoup d'autres banques centrales, à vrai dire, sur cette ligne-là, la Banque de France n'est pas la dernière à être très active dans ce domaine, Marc a pris de nouvelles positions dans le secteur privé et il est envoyé spécial de l'ONU pour le climat, de même qu'il est coprésident de l'Alliance financière pour arriver au fameux net zéro sur le plan du carbone. Il est coprésident avec un autre grand président, M. Bloomberg. Voilà donc, Marc, ce que tu présentes comme expérience, comme vision et, je dirais aujourd'hui, comme action déterminée pour, en effet, la meilleure gouvernance possible sur le plan mondial du climat. Tu as la parole.
Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Claude. Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, les académiciens, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur de m'adresser à l'Académie des sciences morales et politiques. Mon sujet cet après-midi est la bonne gouvernance environnementale mondiale. Et j'aimerais examiner les synergies et les tensions existantes entre la gouvernance mondiale et la souveraineté nationale, entre les engagements contraignants et les objectifs volontaires, et entre les politiques publiques et les actions privées. J'évaluerai la mesure dans laquelle, pour qu'une gouvernance mondiale cohérente émerge et puisse relever le défi urgent et existentiel qu'est le changement climatique. Mon analyse insistera sur 5 points. Premièrement, notre objectif doit être non négociable. L'objectif net zéro, ce n'est pas un slogan, c'est un impératif de la physique climatique. Nous ne pourrons pas stabiliser le climat à quelque température que ce soit sans réussir la transition vers le net zéro. En outre, l'objectif de Paris, fixé à bien moins de 2 degrés de réchauffement, n'est pas un chiffre arbitraire. La science et de plus en plus nos expériences quotidiennes démontrent les impacts catastrophiques d'un réchauffement climatique qui s'accélère. Deuxième point. Nous ne pouvons atteindre l'objectif net zéro ni par décret, ni par des accords contraignants. La transition vers cet objectif impliquera des transformations radicales de nos économies et, par conséquent, il y aura des implications significatives pour nos concitoyens. La souveraineté nationale est essentielle pour développer des stratégies légitimes et pour gérer les transitions justes qui doivent l'accompagner. Troisièmement, toutes les stratégies, celles des gouvernements, des institutions financières et des entreprises, doivent être régulièrement évaluées par rapport à leurs objectifs afin de garantir la responsabilité publique et d'encourager une adaptation et une amélioration constante. Quatrième point. Avec une bonne gouvernance, et notamment via une transparence suffisante, il est possible de créer un cercle vertueux. À cet égard, la politique climatique a beaucoup à apprendre de la politique monétaire. Dans les deux cas, plus la politique est crédible et prévisible, plus l'économie s'adaptera par anticipation et plus la transition se fera en douceur. Et finalement, un système financier favorisant la transition vers le net zéro est essentiel. Mais ce n'est pas une panacée. La finance tourne vers l'avenir et, grâce à des incitations appropriées, elle félicite les ajustements nécessaires et on stimule la croissance. Cependant, la finance ne peut pas effectuer le travail toute seule. La finance est un élément facilitateur, un catalyseur qui peut accélérer la transition. Mais les catalyseurs ont besoin d'éléments sous-jacents qui, pour le climat, sont les politiques des gouvernements, ainsi que l'énergie et l'innovation des entrepreneurs, des entreprises et de la société civile. Le changement climatique est un défi mondial qui nécessite des multiples solutions locales. Et cela a créé une tension fondamentale analogue à l'impossible trilemme de la mondialisation théorisé par le professeur Danny Roderick. M. Roderick affirme que la profonde méfiance à l'égard de la mondialisation s'explique par les conflits qui existent entre l'intégration économique, la démocratie et la souveraineté. des règles et des normes communes sont nécessaires pour le commerce international des biens, des services et des capitaux. Mais elles impactent directement la souveraineté. Pour conserver sa légitimité, le processus d'adoption de ces normes doit être ancré dans un ensemble de principes qui se prévalent de la responsabilité démocratique. À cet égard, la gouvernance climatique peut tirer des enseignements des réformes après la crise financière mondiale. Mon expérience me fait dire que le Conseil de la stabilité financière, le CSF, a résolu le trilemme de Roderick grâce à un processus innovant qui combine un objectif commun, l'élaboration partagée des solutions décidées par les représentants des autorités nationales et pour les Union européenne, supranationales, et la pression des parts pour soutenir la bonne mise en œuvre de ces mesures. Le CSF, Conseil Stabilité Financière, n'est pas une organisation de traité. Aucun de ses membres n'est lié par ses décisions. Toutefois, le développement d'un consensus favorise l'appropriation des normes et permet leur rapide mise en œuvre. Et les évaluations régulières et les marchés financiers incitent à la conformité. Nous avons besoin d'une telle combinaison d'objectifs partagés, d'autorités formelles, d'un processus itératif informel et la transparence pour créer un cercle vertueux en faveur de l'action climatique. Et cette dynamique doit agir à tous les niveaux de gouvernance, à l'échelle mondiale, ainsi que pour le secteur financier. Parce que l'impératif d'agir est urgent. La température moyenne de notre planète est déjà supérieure de près de 1,2 degré au niveau pré-industriel. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Les effets sur des écosystèmes s'intensifient. Les phénomènes climatiques destructeurs, c'est-à-dire les ouragans, les incendies de forêt, les sécheresses, se multiplient. Ces changements n'éliminent pas seulement des espèces, mais ils détruisent également des habitats entiers, tant et si bien que la population de mammifères, d'oiseaux et de reptiles a chuté de 70% depuis ma naissance. Ce qui était impensable est devenu banal. Les scientifiques ont conclu que le rythme de réchauffement climatique est proportionnel à la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Et cela signifie qu'il existe une bougie carbone, c'est-à-dire une quantité restante de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui peut être libérée avant que notre climat ne devienne encore plus instable et destructeur. Selon les conclusions les plus récentes de l'IPCC, le budget carbone mondial pour 1,5 degré sera épuisé en l'espace d'une décennie. Nous nous sommes impliqués très tard. Ce retard, cette irresponsabilité est le produit de trois tragédies nées de la nature de l'humanité et des marchés que nous avons créés. Premièrement, les défaillances du marché conduisent à la tragédie de bien commun, qui se produit lorsque des individus agissant dans leur propre intérêt nuisent au bien commun en épuisant une ressource partagée. Ces externalités ont conduit à la fin du pâturage commun en Angleterre au 19e siècle et à la destruction des pêches à l'est du Canada vers la fin du siècle dernier. Elles détruisent actuellement les forêts tropicales de la planète et mettent en péril sa biodiversité. La solution classique à ces externalités négatives consiste à fixer un prix pour une activité polluante ou, parce que M. le professeur Tirole est ici, dans la théorie de cause, on peut assigner des droits de propriété. C'est la même chose en théorie, en effet. La deuxième défaillance est les fragilités humaines créent une tragédie ou une catastrophe de l'horizon. Nous sommes irrationnellement impatients et les effets catastrophiques du changement climatique retomberont en grande partie sur les générations futures. La génération actuelle, dont les horizons fixés sur l'actualité immédiate, les cycles économiques et les enjeux politiques n'a que peu d'incitation directe à résoudre le problème. Face à un problème qui ne peut qu'être résolu que dans le temps présent, nous devons valoriser l'avenir. Les solutions à ladite catastrophe de l'horizon permettent d'anticiper l'avenir, notamment grâce à l'analyse de scénarios, aux tests de résistance et à la planification de la transition vers net zéro. Et toutes nécessitent une nouvelle gouvernance. Et troisièmement, à cause d'un glissement des sentiments moraux de Adam Smith vers une trop grande importance des sentiments du marché de Milton Friedman, de plus en plus, les décisions ont été prises en fonction de calculs utilitaires. Trop souvent, les valeurs du marché sont considérées comme représentant les valeurs totales. Et si un bien ou une activité comme l'environnement n'est pas sur le marché, il n'est pas évalué. Après tout, les marchés considèrent Amazon comme l'une des entreprises les plus précieuses du monde. Mais la valeur de la région amazonienne n'apparaît sur aucun registre tant qu'elle n'est pas dépouillée de son feuillage et convertie en terre agricole. Cet aplatissement des valeurs encourage compromis entre la croissance aujourd'hui et la crise de demain, entre l'économie et la santé, entre la planète et le profit. Professeur Eleanor Ostrom, prix Nobel d'économie, a montré comment les communautés peuvent coopérer pour gérer une ressource rare par le biais de la coopération et d'une réglementation prudente. C'est ce que les sommets des Nations Unies sur le changement climatique, c'est-à-dire les COP, cherchent à accomplir. En rassemblant les pays, les communautés, les entreprises pour gérer notre écosystème mondial en développant un consensus sur la durabilité Le dynamisme du secteur privé peut être exploité pour mettre la valeur monétaire au service de valeurs humaines. Lorsque la société se fixe un objectif clair, il devient plus rentable de faire partie de la solution et plus coûteux de continuer à faire partie du problème. Depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992, la stratégie de lutte contre le changement climatique a consisté à rechercher un accord collectif et contraignant qui engagerait les pays à agir et imposerait des sanctions à ceux qui ne le feraient pas. Cette stratégie a culminé au protocole de Kyoto, signé en 1997, qui a engagé plusieurs pays industrialisés à réduire leurs émissions de manière spécifique. Si ces objectifs n'étaient pas atteints, les pays concernés se verraient imposer de nouvelles réductions et seraient suspendus de l'échange de droits d'émissions carbone. Le protocole Kyoto fonctionne en théorie, mais c'est devenu un échec total dans la pratique. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité et le Canada, incapable de respecter ses engagements, s'en est retiré en 2011. Les marchés transfrontières de crédit carbone n'ont jamais décollé. Plus généralement, les parties de l'accord ne portaient que sur un quart des émissions mondiales. Ainsi, alors qu'ils ont facilement dépassé leur objectif de réduction des émissions, les émissions mondiales ont considérablement grimpé de près de 60% entre 1990 et 2013. À la veille de la COP de Paris en 2015, on estimait que le monde était en passe de connaître un réchauffement de plus de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle. La gouvernance mondiale avait donc besoin d'une approche radicalement nouvelle. À Paris, les gouvernements ont enfin trouvé la volonté de s'attaquer sérieusement au changement climatique en s'engageant à contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale nettement en dessous de 2 degrés et à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. L'accord sur le climat avait finalement un objectif clair, dont l'importance a été renforcée au fil du temps. Le génie de l'accord de Paris réside dans la manière dont il équilibre cet objectif mondial clair avec le respect des souverainetés nationales concernant les solutions à mettre en œuvre pour l'atteindre. De plus, cet accord inclut des mécanismes permettant de rehausser l'ambition au fil du temps. Pour simplifier, dans le cas de l'accord de Paris, les pays élaborent des stratégies volontaires de réduction des émissions appelées contributions déterminées au niveau national ou les CDN et une évaluation de la somme de ces plans, ces CDN, permet de déterminer avec précision la façon dont le monde converge vers son objectif. Tous les pays sont appelés à actualiser régulièrement leurs efforts dans le cadre d'une responsabilité partagée, d'une pression sur les acteurs engagés et d'un activisme de la part des parties prenantes. L'accord de Paris encourage les gouvernements à être beaucoup plus ambitieux qu'elles ne l'avaient été lorsqu'ils étaient confrontés à des sanctions en cas de manquement. En surtout, en conservant la souveraineté, il renforce la légitimité des politiques nationales nécessaires à transformer les économies. La transparence des engagements des pays et des CDN permet d'évaluer régulièrement la capacité du monde à maintenir l'objectif de 1,5 degrés en vie. Cela crée une tension saine qui permet d'aboutir à des engagements ambitieux. À cette fin, l'article 14 de l'accord de Paris a établi un inventaire mondial et le premier inventaire sera achevé lors de la COP28 aux Émirats arabes unis ce novembre. Paris a également impliqué des acteurs non étatiques, y compris les gouvernements nationaux et locaux, et surtout le secteur privé. Et il est crucial que l'accord de Paris appelle à rendre les flux financiers cohérents avec une trajectoire vers de faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement économique respectueux du climat. C'était l'article 2.1c. L'accord de Paris reconnaît ainsi que le monde doit transformer la finance mondiale afin que tous les fonds publics et privés soient alignés sur les objectifs de Paris. Lors de la COP de Paris, sous l'égide de CSF, la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, ou TCFD, a été lancé. 2 ans plus tard, la Banque de France ainsi que 7 autres banques centrales, y compris la Banque d'Angleterre, ont créé le réseau pour l'écologisation du système financier, l'acronyme est le NGFS. Et le but des NGFS est de promouvoir la collaboration entre les autorités financières au sujet du changement climatique et des défis environnementaux connexes. Alors, pour simplifier, selon Paris, au niveau mondial, la gouvernance du climat est la suivante. Un objectif clair de limiter le réchauffement à bien moins de 2 degrés. Un respect de la souveraineté nationale dans leur définition des trajectoires climatiques et des politiques à mettre en œuvre pour les atteindre. Une évaluation régulière de l'adéquation collective de ces politiques et une démarche interactive qui encourage à redoubler d'efforts pour réduire et finalement combler le fossé entre l'ambition et l'action. Comme nous le verrons, cette structure de gouvernance se répète au niveau national et au sein du secteur financier. Et tous ces éléments peuvent se renforcer mutuellement. Auparavant, je vais passer en revue les derniers développements pour démontrer la puissance de ce modèle de gouvernance en action. Toutes les innovations de Paris ont été développées depuis 2015. Tout d'abord, l'objectif principal a été renforcé en mettant davantage l'accent sur le but de réduction des émissions à 1,5 degré. Deuxièmement, la logique implacable de la physique du climat, c'est-à-dire la nécessité de parvenir à des émissions net zéro dans le cadre d'un budget carbone fini, cette logique est entrée dans le courant dominant. Le COP26 à Glasgow a permis d'obtenir des engagements presque universels en part, de la part des pays en faveur de l'objectif net zéro. Et ces engagements nationaux constituent une boussole pour les entreprises, le secteur financier et d'autres acteurs non étatiques. En effet, l'objectif vague de la durabilité a été transformé en quelque chose de mesurable et de gérable. Troisièmement, l'ambition des pays n'a cessé de croître, renforçant la crédibilité de l'action climatique. Les Nations Unies estiment que si tous les objectifs actuels d'émissions nettes était atteint, le réchauffement climatique serait limité à 1,8 degré. Et finalement, le processus de la COP a commencé à intégrer des actions collectives supplémentaires dans des domaines spécifiques, y compris les engagements de 65 pays à arrêter progressivement le recours au charbon, 145 pays à stopper et à inverser la déforestation et 150 pays qui s'engagent à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. L'impact collectif a été impressionnant. Avant Paris, les politiques climatiques étaient compatibles avec une trajectoire de plus de 5,5 degrés. Depuis Paris, les nouvelles CDN ont permis de réduire les émissions prévues pour 2030 d'environ 6 gigatonnes, soit équivalent de 15% des émissions annuelles actuelles. Et équivalent des émissions actuelles des États-Unis maintenant. À Glasgow, les CDN étaient compatibles avec un réchauffement de 2,4 degrés, bien qu'il y ait encore, un écart avec les objectifs de Paris, et bien que le temps presse, la dynamique impulsée par la gouvernance mondiale fait avancer le monde dans la bonne direction. Alors, pour que la finance contribue à débloquer l'action climatique, elle doit se concentrer sans relâche sur tous les aspects de la transition net zéro. La révolution industrielle a été rendue possible par une révolution financière qui a transformé la nature des banques privées, l'objectif des banques centrales et la portée du système monétaire international. Et la révolution de transition vers le net zéro nécessitera des changements aussi audacieux. À l'instar de la révolution industrielle, la révolution financière durable s'est accélérée à Glasgow, avec une série de percées qui ont commencé à concrétiser l'esprit de Paris. L'un des objectifs de la COP26 à Glasgow était de mettre en place un système financier dans lequel chaque décision tiendrait compte du changement climatique grâce à des réformes visant à transformer les informations fournies, les outils de finance et les marchés financiers. Le fondement est une transparence claire, comparable et pertinente, afin que les institutions financières puissent gérer les risques et saisir les opportunités liées à la transition climatique. À cette fin, le TCF2 a été lancé en tant que conseil à Paris, puis développé en tant qu'ensemble de normes volontaires au G20 de Hambourg en 2017. Cependant, bien que le TCFD ait été adopté par des milliers d'organisations, il existe encore des lacunes dans la couverture et la mise en œuvre des recommandations. La démarche volontaire est allée aussi loin qu'elle pouvait aller. Et c'est pourquoi le lancement de International Sustainability Standard Board, le ISSB, a constitué un développement crucial à Glasgow, en vue de fournir une base mondiale de normes de transparence fondée sur la TCFD. Ce nouveau projet de règles de transparence sur le climat de l'ISSB garantira aux investisseurs mondiaux un accès et des données fiables, comparables et complètes dont ils ont besoin. Le travail de l'ISSB est déjà soutenu par le G7, le G20 et le CSF. Et à cet égard, je voudrais remercier vous, Monsieur le Président Jean-Claude Trichet, pour votre leadership remarquable. Sur cette base, et sous l'impulsion de NGFS, les banques centrales, les autorités de surveillance et les régulateurs se sont attachés à faire en sorte que les institutions financières gèrent leurs risques financiers liés au climat. Aujourd'hui, plus de 120 banques centrales et autorités de surveillance sont des membres de NGFS. Ils intègrent l'évaluation et la gestion des risques climatiques dans leurs activités, notamment par l'analyse de scénarios permettant d'explorer les risques systémiques. Et ces travaux ont incité les principaux organismes normalisation financière, c'est-à-dire le comité de Bâle, IOSCO et le CSF et le FMI, à intégrer le changement climatique dans leurs activités. Ces développements aident également à l'investisseur à identifier et à mesurer les opportunités qui constituent la transition vers l'objectif net zéro. En effet, dans la mesure où le changement climatique est un risque existentiel, il est évident que les entreprises qui font partie de la solution généreront une valeur énorme. Par conséquent, maintenant, le financement nécessaire est disponible. Dans le cas de... J'ai seulement l'anglicisme, parce que c'est à Glasgow, le Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ou GFANZ. Monsieur le Président l'a traduit. Mais cette alliance, c'est une alliance de 560 grandes institutions financières de 50 pays, et cette alliance s'engage à gérer les émissions financières sur leur bilan, soit plus de 150 000 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire 40% de tous les actifs financiers du monde. Les membres de GFANS utilisent des sentiers fondés sur la science et fixent des objectifs intermédiaires. Le travail de mise en œuvre est déjà bien entamé. Par exemple, au début de l'année dernière, aucune banque n'avait fixé l'objectif sectoriel scientifique pour la fin de cette décennie. Lors de la COP27 en Égypte, 60 banques l'avaient fait, et concernant l'ensemble des membres de GFANS, plus de 300 objectifs intermédiaires ont été fixés, soit double de nombre prévu. Cela dit, pour être clair, la transition vers le net zéro ne sera pas comme basculer un interrupteur vert ou investir uniquement dans des entreprises déjà bas carbone. Le monde ne peut pas désinvestir pour parvenir à une consommation répondant à l'objectif net zéro. La transition, c'est la transition. Point. Les institutions financières doivent aller là où se trouvent les émissions et soutenir les entreprises qui ont des plans crédibles pour transformer leurs activités en vue d'un monde net zéro. Tout comme la TCFD l'a fait pour la transparence financière liée au climat, le GFANS le fait pour le financement de la transition. Lors de la COP27 en Égypte, le GFANS a publié des cadres essentiels à un système financier net zéro, incluant des états communs pour des plans de transition des institutions financières et des entreprises de l'économie réelle, des orientations sur l'utilisant de l'alignement prospective de portefeuille et une cadre pour l'élimination progressive des actifs échoués. Tout comme les gouvernements ont besoin d'organes de contrôle pour évaluer l'adéquation de leur politique, les institutions financières ont besoin d'un mécanisme de responsabilisation pour contrôler l'adéquation de leur portefeuille avec leurs objets. Et pour relever ce défi mondial en matière de données, le président Macron et le co-président de GFANS, Michael Bloomberg, ont créé le Climate Data Steering Committee. Ce comité comprend toutes les organisations internationales concernées, c'est-à-dire l'ONU, l'OCDE, le CSF et le FMI, ainsi que des représentants du gouvernement, même Union européenne, et les principaux fournisseurs de services de données financières. Le comité a proposé une Net Zero Data Public Utility, un référentiel de données ouvert, gratuit et centralisé qui permettra à toutes les parties prenantes d'accéder facilement aux données clés relatives à la transition climatique, aux engagements des institutions financières, ainsi qu'aux progrès des entreprises et des institutions financières. Le premier projet pilote sera opérationnel cette année. Le monde, continuer avec quelques mots sur le système financier international. Le monde ne peut résoudre le problème du changement climatique nulle part sans le résoudre partout, c'est évident. Mais c'est absolument le cas maintenant parce que les pays émergents et en développement représentent aujourd'hui 2/3 des émissions annuelles. Pourtant, les moyens financiers mis à la disposition des pays émergents pour lutte contre le changement climatique ont été terriblement insuffisants. D'ici la fin de la décennie, le monde doit mobiliser 1 000 milliards de dollars supplémentaires par année pour le financement, pour financer des transitions en énergie propre dans les pays émergents et en développement. Autre que la Chine, d'être clair. Les besoins en matière d'adaptation et la capacité de résistance seront au moins aussi importants. En comparaison, le financement public transfrontalier actuel pour le climat est inférieur à 100 milliards de dollars par année. Pour atteindre l'échelle nécessaire, les rares financements publics doivent mobiliser d'importants financements privés. Et cela nécessitera la mise en place des mandats de gouvernance et des approches de financement des banques multilatérales de développement ou des BME. Cette transformation commence par la prise de conscience du fait que la lutte contre le changement climatique est inextricablement liée aux missions fondamentales des BME, à savoir la réduction de la pauvreté et la promotion du développement. L'alignement des prêts de BME sur la transition net zéro, bien qu'essentiel, ne sera pas suffisant. Les BME doivent également s'efforcer de supporter les risques que le secteur privé ne prendra pas, notamment les obstacles de longue date, tels que les risques de taux de change, les risques politiques et les obstacles relatifs à la collecte de données. Ces risques dépassent souvent les limites réglementaires et fiduciaires des institutions financières privées et peuvent porter le coût de capital à niveau insoutenable, même pour les projets les plus simples. Maintenant, le monde est pris dans un paradoxe de prudence dans lequel les institutions financières individuelles, y compris les BME, soient à la fois censées, au regard de la gestion de risques micro-prudentiels, mais également insensées au regard de la gestion macro-prudentielle, dans la mesure où elle minimise les risques spécifiques tout en encourageant un risque existentiel. Il convient de rappeler que le changement climatique est le risque systémique ultime auquel aucune institution, y compris les BME, ne peut se soustraire. Il n'y aura plus de notation AAA s'il n'y a plus de planète. La seule façon de résoudre cette tragédie de l'horizon ou catastrophe de l'horizon est de prendre des mesures utilisant des garanties, des assurances contre les risques et des structures de financement mixtes. Une utilisation plus fréquente de ces outils signifierait une plus grande prise de risque pour les BME. Mais tout l'intérêt des banques de développement financées par des fonds publics est de prendre des risques que le secteur privé ne veut pas prendre. Si les dispositions existantes en matière de gouvernance ne permettent pas au BMD d'assumer ces risques, il faut soit les modifier ou soit créer un nouvel instrument public qui absorberait les pertes pour garantir les risques et tirer parti des rares capitaux publics avec l'apport important capitaux privés. En attendant, les nouvelles plateformes nationales représentent une approche prometteuse. Ces initiatives coordonnées rassemblent des politiques climatiques nationales plus efficaces, c'est-à-dire des politiques nationales des pays émergents plus efficaces, des environnements favorables améliorés et un développement de projets plus rapide. Les plus ambitieux sont les Just Energy Transition Partnerships, ou JETPs, qui maintenant sont mis en œuvre au Vietnam et en Indonésie, et que le GFANS a financé conjointement avec les gouvernements du G7 et les banques de développement. Ces JETPs visent des réductions d'émissions de 20 à 30% d'ici à la fin de la décennie. C'est énorme. C'est absolument énorme. En même temps, les marchés volontaires du carbone peuvent constituer une source majeure de flux de capitaux transfrontaliers et ils ont le potentiel de créer des co-bénéfices significatifs pour la biodiversité et les peuples autochtones. Enfin, ils pourraient jouer un rôle important en contribuant à la mise au service des actifs délaissés et empêchant la création de nouvelles centrales au carbone. Pour parvenir à cette échelle, il faut atteindre les plus hauts niveaux d'intégrité de l'offre et de la demande, et le COP28 est l'occasion de prendre le terreau par le corne et de finaliser ces efforts volontaires. Et surtout, la présidence de Émirats Arabes Unis, le nouveau groupe d'experts du G20 vient de créer, le changement à la tête de la Banque mondiale et l'initiative de Bridgetown menée par le Premier ministre Mia Motley donnent un élan considérable à la réforme des BMD. Et le sommet de juin de Monsieur le Président Macron pour une nouvelle pacte financière mondiale représente une occasion cruciale de progresser. Avant de conclure, permettez-moi d'expliquer comment cette gouvernance mondiale émergente stimule l'action climatique à l'échelle des gouvernements, des entreprises et de la finance. Pour les gouvernements, l'action climatique commence par des engagements clairs en faveur d'émissions net zéro sur les trajectoires permettant de limiter l'augmentation de température à 1,5 degrés. Les objectifs intermédiaires sont essentiels pour suivre les progrès et inciter à l'action. Les décideurs publics doivent bien entendu élaborer des politiques efficaces tels que marché de conformité pour les émissions, des contrats à terme afin de soutenir l'énergie renouvelable, des moratoires sur les véhicules à combustion interne et le soutien aux technologies de pointe. Comme la recherche de Madame la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, l'a fait pour le G30, plus les politiques climatiques des gouvernements sont crédibles et prévisibles, plus les investisseurs financeront par anticipation, créant ainsi un cercle vertueux d'investissement à grande échelle, de décarbonation plus rapide, de création d'emplois et de croissance accélérée. Cette crédibilité se construit grâce à des actions politiques de plus en plus spécifiques et ambitieuses et des évaluations rigoureuses et opportunes des progrès accomplis. Et une dynamique similaire permet au financement de catalyser l'action climatique. La première étape pour les institutions financières reflète celle du gouvernement. Prendre des engagements de transition vers le net zéro, très ambitieux et fondés sur la recherche scientifique, comme l'ont fait tous les membres de GFANS. Ensuite, les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des plans complets de transition vers l'objectif de net zéro, conformément au cadre de GFANS. Enfin, les institutions financières ont besoin d'un mécanisme de responsabilité pour évaluer la façon dont leur portefeuille s'aligne sur leurs objectifs. Et finalement, le nouveau service public de données que je viens de décrire favorisera le changement en fournissant un puissant mécanisme de retour d'information aux institutions financières, aux entreprises et au gouvernement. De cette manière, la finance devient un miroir pour les gouvernements sur la politique qu'ils doivent mener pour répondre aux ambitions collectives de la transition. OK. En conclusion, aujourd'hui, ce miroir de finances reflète un monde dont les efforts en matière de climat se sont considérablement améliorés depuis Paris, mais qui a encore beaucoup de chemin à parcourir en peu de temps. Le budget carbone dont nous disposons encore s'épuise rapidement. Les crises parallèles de la nature et de la biodiversité s'aggravent à un rythme alarmant. Comme l'a récemment déclaré de Sultan Al-Jaber, futur président de la COP, nous n'avons pas besoin d'atteindre l'inventaire global pour savoir ce qu'il dira. Nous savons déjà que nous sommes loin de compte. Le secteur financier est saisi de cette urgence. En moins de 2 ans, le GFANS a créé une gouvernance nécessaire au leadership du secteur privé, pris des engagements climatiques à l'échelle dont le monde a besoin, développé les outils nessaires nécessaires à la mise en œuvre de ces engagements et commencé à construire un service de données ouvert. Nos priorités pour cette année reflètent l'importance que nous accordons aux solutions concrètes. L'accent est mis sur le financement de réduction majeure des émissions, par exemple les JETPs, et du travail avec l'industrie dans des secteurs à forte émission de l'acier au transport. Et parallèlement, nous nous efforçons d'intégrer formellement les cadres de gouvernance essentiels au secteur financier. Cela signifie intégrer la planification de la transition vers une économie net zéro afin de garantir que cet impératif stratégique est mis en œuvre de manière cohérente par les institutions financières, leurs clients, les gouvernements et les régulateurs. Comme je l'ai souligné, la gouvernance mondiale de l'environnement provient de la combinaison d'une structure mondiale et d'un respect de la souveraineté nationale, de politiques publiques et d'actions privées, d'engagements contraignants et d'objectifs volontaires. Et dans ce contexte, les démarches volontaires telles que la TCFD et les cas de GFANS présentent les avantages de la rapidité, de l'efficacité et de l'adaptabilité. Mais la démarche volontaire ne peut progresser que jusqu'à un certain point. Même s'il réussit, les leaders ne couvrent qu'une fraction de l'économie globale et les retardataires sont nombreux. Et enfin, les initiatives privées risquent de ne pas être à la hauteur d'autres priorités de politique publique, telles que la réussite d'une transition juste. Alors, tout comme pour le TCFD, le cadre de planification de la transition de GFANS doit être incorporé dans les exigences statutaires, la réglementation et la législation. Le temps est un facteur essentiel. Parce que oui, bien sûr, le système financier se transforme, mais pas assez rapidement. Par exemple, à partir du lancement de le TCFD lors de COP21 à Paris, 10 ans se seront écoulés avant que les premiers rapports financiers ne soient publiés selon le nouveau cadre de l'ISSB. Nous ne pouvons pas attendre une autre décennie pour intégrer les plans de transition. Après tout, deux des plusieurs leçons que j'ai retenues de Jean-Claude Trichet sont les suivantes. Premièrement, en cas de crise, le plan vaut mieux que l'absence de plan. Et deuxièmement, armé d'un plan dans une crise, il faut agir avec une grande rapidité et avec une force écrasante. Grâce au génie de Paris, le monde a un plan. Nous avons maintenant besoin de la rapidité et d'une force écrasante pour l'appliquer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon cher Marc. C'est un bonheur pour nous, évidemment, d'écouter ton français qui nous réjouit très, très profondément.
C'est le français des
Alors là, c'est aux citoyens canadiens que je parle, mais aussi en même temps aux citoyens britanniques, car nos membres britanniques parlent eux aussi. Je peux citer le prince de Galles, qui est maintenant roi d'Angleterre et qui parle un très, très bon français. Merci infiniment de ton exposé.